De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Lila Cab qui propose des ateliers découverte de dossiers MDPH. Rappeler quelque chose, c'est que la MDPH c'est un lieu physique, c'est un établissement sur Toulouse et j'imagine que c'est ouvert tous les jours, même le week-end, de 7h du matin à 20h, un truc comme ça sans interruption.
Si seulement. Non, c'est ouvert un jour par semaine, le mercredi, et c'est de 9h à 16h30.
Un jour par semaine, tu viens de dire?
Ouais. Bah, parce qu'il y a des réductions budgétaires. Ouais. Donc, ils sont obligés de réduire le nombre de jours d'ouverture, ce qui est complexe. Parce que du coup, c'est là où tu peux aller poser tes questions quand t'es pas sûr de quoi mettre dans ton dossier. Il y a un accueil. Mais ça veut dire qu'en fait, juste, t'as plein de gens qui arrivent le mercredi.
J'imagine, ouais.
Et sachant que du coup, c'est départemental. Donc, la MDPH qui est à Toulouse, c'est pour toute la Haute-Garonne. C'est pas juste pour Toulouse. Donc, t'as un jour pour répondre à tous les gens de Haute-Garonne qui sont concernés, sachant que on est des dizaines de milliers en Haute-Garonne à être concernés par le handicap. Donc c'est vraiment, vraiment peu. On voit que la MDPH, ils font des efforts pour pallier aux difficultés. Ils font notamment des guides en FALC, en facile à lire et à comprendre, avec des phrases très simples, des pictogrammes, des images, etc. C'est toute personne qui a des difficultés de compréhension. Le gouvernement propose à peu près tous leurs documents en FALC. Donc si jamais, à un moment, vous n'êtes pas sûr de comprendre un truc, cherchez la version en FALC, ça vous facilitera la vie. Ils ont aussi écrit un guide pour remplir le dossier MDPH, mais concrètement, le guide, il fait 3 pages où, en fait, il te dit juste pour demander telle aide, tu peux mettre ces 3 documents. Et c'est vraiment pas suffisant, ils en ont conscience, mais nos moyens sont très réduits, quoi.
Est-ce que le personnel vient se former dans tes ateliers découvertes pour essayer de comprendre ce qu'ils proposent eux-mêmes comme dossier?
Ce serait fun. Non, par contre, j'ai la chance d'avoir des gens concernés qui ont déjà rempli un dossier. J'ai aussi une assistante sociale qui est venue récemment m'aider. Et c'est super parce que du coup, c'est des gens qui ont quand même des connaissances, qui ont l'habitude de remplir des dossiers ou qui ont juste des handicaps différents du mien et qui du coup peuvent apporter plus d'informations et de témoignages. Et ça, c'est vraiment génial parce que j'ai mon handicap, j'ai ma vision, je reste une personne blanche qui parle bien français, qui vient de classe moyenne et qui du coup a un certain langage. Et donc c'est chouette de pouvoir avoir d'autres visions, d'autres expériences de vie, d'autres témoignages pour aider tout le monde à remplir le dossier parce qu'on a tous des expériences et des handicaps différents.
Le mot dossier, je voulais savoir ce que ça faisait au corps, ce mot dossier simplement, et puis qu'est-ce que ça disait aussi des corps?
Qu'est-ce que ça fait au corps? Ça fait peur. Moi, en tout cas, c'est ce truc de genre de crispation, de peur, de me dire la charge mentale et administrative que ça va être, toutes les démarches, en fait, genre tout de suite, je suis dans l'anxiété. Et c'est d'autant plus difficile quand tu sais que t'es peu mobile et que donc les déplacements pour les rendez-vous, ça va être compliqué, que c'est fatigable, que t'as un TDAH et donc des difficultés de gestion administrative notamment, quand t'as de l'anxiété aussi. La plupart des gens qui viennent à mes ateliers ont un trouble d'anxiété généralisée ou un TDAH ou d'autres types de neuroatypies. Et en fait, juste, ils sont bloqués, quoi, dans les démarches. Ils ont besoin d'ateliers où on peut leur expliquer ou juste, en fait, pour se mettre en action.
Ouais, parce que ça renforce aussi la violence liée au dossier. Enfin, je veux dire, il faut avoir conscience de ça, qu'un dossier, c'est pas juste nom, prénom, et ça, c'est tranquille, quoi. Enfin, pour certaines personnes, la façon dont t'es câblé fait que c'est une épreuve.
Complètement, c'est complètement une épreuve. Et puis, j'ai même pas parlé de, par exemple, si t'es dyslexique, si t'es dysorthographique, ou en fait, juste, ça va être d'autant plus difficile. Ou alors, t'es droitier et t'as pas ta main droite. Et donc, va falloir que tu demandes à quelqu'un de remplir le dossier pour toi, qui est un autre truc en plus, quoi. Enfin, il y a tellement de barrières qu'on ne voit pas. C'est neuronal, quoi. C'est bien plus compliqué que juste écrire 3 lignes. Et puis, ça prend pas en compte toute la charge administrative derrière, de devoir prendre les rendez-vous avec les médecins qui se font pas toujours sur Doctolib, d'autant plus quand c'est un spécialiste super spécialisé, ou alors là faut que t'appelles et t'as 6 mois
ouais,
d'attente.
C'est ce que j'allais dire. Ou alors si, mais dans 2 ans, super. Puis la traduction, il faut parler effectivement parfaitement français. Il faut aussi voir juste ça. Si tu te fais aider par quelqu'un, par un traducteur, une traductrice, ben là, ça rajoute et un intermédiaire et aussi rapport à qui tu es, puisque d'un coup, tu te sens moins autonome dans la démarche. Mmh. Et on l'a déjà un petit peu évoqué, mais pour toi, qu'est-ce que la MDPH raconte sur la manière dont l'État va considérer et considère le handicap et sur la normalité productive?
Ça raconte une vision du handicap centrée sur la capacité à travailler et avoir une vie normale. En fait, si tu peux faire les tâches du quotidien seul ou aller travailler, tu mérites pas d'aide. Enfin, concrètement, c'est ça. Tu peux te débrouiller. Enfin, c'est la méritocratie, fais de ton mieux, quoi. Il faut leur prouver que t'es dans un truc immensément difficile pour toi, immensément douloureux, pour que t'aies un minimum d'aide et vraiment un minimum, quoi. Genre, t'es pas dans de la vie confortable. Et oui, les aides proposées, elles sont centrées sur le travail, parce que c'est que ça que le gouvernement voit et transmet à travers la MDPH, quoi.
Et est-ce que tu penses que c'est une vision politique qui est volontairement jugeante et qui a soit une idéologie validiste?
Oui, concrètement. Ça permet de nous mettre de côté et de faire peur à travers la vision que les gens ont de nous. Si nous, on est déshumanisés et dévalorisés parce qu'on n'est pas en capacité de travailler, les autres vont faire d'autant plus d'efforts pour montrer qu'ils ne sont pas comme nous. Ça permet de mettre la pression sur les gens. En fait, c'est comme pour les personnes qui sont sans abri. Si tu maintiens des gens dans cet état de survie et de précarité énorme, tu peux mettre la pression sur les autres en les menaçant avec ça. C'est que ça nous dit qu'on ne mérite pas de vivre. Bah déjà, pour comprendre ce truc de la peur du handicap, il suffit de regarder les vilains dans nos fictions. Ils sont tous d'une manière ou d'une autre handicapés. Soit ils ont des troubles de santé mentale, soit tu as beaucoup ce truc du vilain qui boite et qui tremble et qui bouge un peu bizarrement, qui est effrayant pour ça. Souvent aussi, ils vont avoir des déformités, un corps qui sort de la norme, et en fait, t'es censé avoir peur d'eux pour ça. Ça rentre dans ce truc de la peur. Dans la société de manière générale, on n'est ni cru par défaut, ni soupçonné par défaut, ça dépend vraiment. D'autant plus avec les handicaps invisibles. En général, quand t'as un handicap visible, c'est plus compliqué de le remettre en question. Et encore, ça m'est arrivé, c'était au musée des abattoirs, j'avais emprunté un fauteuil roulant pour pouvoir tout simplement me déplacer. Et à un moment, je me suis levée, parce que juste je commençais à avoir mal du fait d'être assise, parce que j'ai un handicap et que rester longtemps dans la même position, c'est douloureux. Et il y a un vigile qui a couru vers moi et qui m'a dit « Alors, on est à Lourdes » pour insinuer que « Ça y est, j'ai eu un miracle, je me suis levée, je suis plus paralysée. Wow. » Et je l'ai regardé, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai besoin de ce fauteuil roulant. » Vous savez, en fait, la plupart des gens qui utilisent un fauteuil roulant sont ce qu'on appelle ambulatoires. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour se déplacer, mais en fait, ils peuvent marcher. Juste, c'est douloureux, ou ils peuvent marcher que pendant un temps très court. Et du coup, dès que tu sors de ce cadre de la vision du fauteuil roulant, où genre, en fait, t'es paralysé et tu peux pas te déplacer autrement, on pense que... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mens, en fait. Il a même insinué que j'avais le fauteuil roulant pour jouer. Et bon, j'étais là en mode, si seulement, j'aimerais. Et d'un autre côté, la majorité des gens de mon entourage me croient au niveau de mon handicap, mais ça ne veut pas dire qu'ils le prennent en compte ou qu'ils ne l'oublient pas. Et notamment avec les handicaps invisibles, en fait, vu que tu ne le vois pas, tu l'oublies constamment. J'ai des amis qui savent parfaitement mes difficultés, parce qu'on en parle constamment. Ils savent que je ne peux pas rester debout très longtemps, que je ne peux pas marcher très longtemps, et qui en fait juste sont aussi dans leur monde et dans leurs difficultés à eux aussi, et qui vont me faire attendre 40 minutes en ville parce qu'en fait juste ils ont oublié. ils y pensent pas. Et c'est pas grave en soi, mais c'est juste que c'est la difficulté du handicap invisible. Quoi. En fait, si tu le vois pas, tu l'oublies. Si tu vois pas quelqu'un en fauteuil roulant ou avec une canne, tu vas d'instinct oublier que cette personne, bah, juste, elle a des difficultés. Quoi.
Ça va avec notre construction très stéréotypée aussi du handicap. Parfois, ça devient aussi une militance. Il y a plein de collectifs, de pensées militantes liées au validisme. Et, on combat. Pour toi, qui doit décider en fait de ce qui fait le handicap ?
Les personnes concernées. En fait, c'est, on connaît nos expériences de vie et on connaît nos difficultés. Et du coup, enfin, en fait, à partir du moment où je me revendique personne handicapée, pourquoi t'as à le remettre en question ? Surtout que c'est pas un truc qui va m'apporter des avantages dans la société. Encore une fois, les trucs comme la hache, faut le prouver un max pour l'obtenir et ça t'aide pas à vivre confortablement, ça te permet de survivre. Donc je vois pas l'intérêt à faire semblant d'être handicapée.
Bonjour à tous. Je viens pousser un coup de gueule sur le fonctionnement des MDPH en France. Excusez-moi, hein, j'en peux plus. D'abord, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle au sein des MDPH une commission des droits et de l'autonomie. Ces représentants CDAPH, ils sont nommés par le département et par la préfecture. Ils sont pas en droit de prétendre représenter les personnes handicapées parce que justement, elles ont un conflit d'intérêts par rapport à la gestion des établissements et services puisqu'elles sont financées par les pouvoirs publics. Grosso modo, pour pouvoir continuer à être financées, elles pensent qu'elles doivent prêter allégeance au pouvoir public et que la commission est quand même rarement en position de faire valoir les droits des personnes handicapées. Vous avez des situations où vous avez des personnes qui sont handicapées et malheureusement, les textes tels qu'ils sont faits ne reconnaissent pas ces handicaps ou en tout cas n'accordent pas des droits par rapport à ces handicaps. On est très souvent dans ce cas-là. Il faut savoir que, par exemple, pour la hache, on peut avoir une situation de handicap qui est reconnue, mais quand elle est reconnue à moins de 50%, vous n'avez pas droit à l'AAH. Pareil, si on prend la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est censée permettre de payer des auxiliaires de vie pour nous permettre notamment de pouvoir vivre en milieu ordinaire et mener une vie autonome, ce texte est extrêmement restrictif. Alors je dis pourquoi est-ce qu'il faut connaître les textes ? Parce que quand on est face à une administration et si on argumente uniquement sur le côté humain, ben, l'administration, elle a beau jeu de nous dire que de toute façon, voilà, c'est pas dans le cadre légal et qu'elle peut pas suivre. Donc, il est important de se former pour être capable de contester ce que disent les membres de la MDPH.
Mais est-ce que tu penses que c'est un outil d'aide ou un outil de tri ?
C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est un outil de tri. Du fait de la société dans laquelle on vit et de comment on perçoit le handicap, ils sont obligés de trier. Et parce que c'est des questions financières derrière. C'est des budgets alloués par le gouvernement, par l'Assemblée, etc. De manière générale, la société ne veut pas aider les handicapés. Donc ça reste une chance de l'avoir, c'est pas suffisant, mais ça reste une chance et ça reste un outil d'aide. Ce dont j'ai peur, c'est que ça devienne exclusivement un outil de tri à terme. Et enfin, c'est qu'il n'y aurait vraiment plus aucun argent mis là-dedans, ce qui, franchement, n'est pas impossible au vu de ce que le gouvernement de Macron fait au système de santé en France, quoi. Moi, mon AH, elle s'arrête en 2028. Est-ce que ça existera encore d'ici là ? C'est une question, une vraie question.
Oui, parce que par tri, moi, j'entends en plus même hiérarchisation.
Alors oui, je vous ai expliqué donc comment est composée la CDAPH, que déjà, c'est très inégalitaire, que les départements et l'État ont la majorité. Vous avez aussi, et c'est important de le noter, un représentant de la CPAM et un représentant de la CAF. Or, ces représentants, ce sont censés être les représentants des usagers des CAF et des CPAM. Or, qui on retrouve en général à ces postes ? Des valides qui ne connaissent rien au handicap et qui ne se forment surtout pas. Finalement, adoptent le point de vue de la MDPH. La CDAPH est souveraine, c'est ce que dit la loi. Donc, elles peuvent déroger. Donc, on peut arriver à dire, OK, les textes ne sont pas favorables à cette personne, mais elle n'est pas loin du droit. Et humainement, on va mettre très en difficulté cette personne, ça peut même mettre sa vie en danger. Parce que y a des gens qui se suicident quand on leur refuse leurs droits. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Il y a des gens qui s'automutilent. Il y a des gens qui se désespèrent. Il y a des gens qui tombent dans des addictions à cause de ça. On peut défendre les choses sur le plan moral en expliquant bien quelles sont les situations vécues par les personnes, ce qui demande de bien connaître les situations de handicap.
Et alors justement, qu'est-ce qui est le plus violent ? C'est les refus, les délais, la fatigue aussi
Le plus violent, c'est tout ce que tu as cité. En fait, il n'y a pas forcément de truc plus violent. Enfin, si, j'imagine les refus, c'est... Je pense que c'est dévastateur. Enfin, ça l'est, en fait, ça l'est. C'est dévastateur parce que t'as basé tellement de choses sur le fait que t'aurais soulagement que du coup, si on te le refuse, c'est d'une violence extrême. Mais les délais, c'est aussi un temps de souffrance énorme. C'est un document hyper anonyme. Ah ouais. Tu reçois ça par courrier avec juste votre dossier a été refusé. Voici comment faire recours. Ah ouais. Alors, t'as toujours une page d'explication sur comment faire recours. Et ça, tu l'as pour genre toutes tes demandes. Donc, si t'as fait AH, RQTH et PCH et que même que ce soit accordé ou pas, t'as toujours la page d'explication sur comment faire un recours. Mais c'est des mois d'attente en plus. L'émission de la MDPH, c'est de traiter du coup ces dossiers d'aide, etc. Faire le lien avec d'autres institutions et entités. Par exemple, si tu as fait une demande dans un établissement spécialisé, ils peuvent faire ce lien-là. Si tu fais une demande à la GFIP pour des accommodations dans ton entreprise, ils peuvent faire ce lien-là aussi. Donc, il y a toute cette partie de travail. Et ils ont aussi comme mission de sensibiliser sur les questions du handicap. Donc, ça va aussi être une partie administrative de faire des campagnes de communication, des ateliers, j'imagine, de sensibilisation dans des collèges, etc. Mais la plupart du travail reste concentré sur l'évaluation de ces dossiers. Donc, en fait, même juste la constitution de la CDAPH pour étudier ton dossier, au final, il est long aussi. Et ça, c'est beaucoup de leur travail.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on implique tous les partenaires? Tout à l'heure, tu parlais de résistance.
C'est énormément de boulot. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'aller vraiment vers une convergence des luttes, parce qu'en fait, tout se rejoint. Et c'est pareil avec l'antiracisme, l'anti-LGBTQ-phobie, parce qu'en fait, tout ça se rejoint. Quand tu vas voir un médecin, tu vas être confronté à potentiellement de la transphobie, potentiellement du racisme, aussi juste en fait tout plein de biais négatifs liés au handicap. Et du coup, il faut aussi lutter contre ça. Pour lutter contre les violences, il faut lutter aux côtés des médecins, des infirmiers, etc., du personnel de santé qui est juste en PLS la plus totale avec la manière dont le gouvernement détruit systématiquement le système de santé. Il faut lutter avec tout ça pour pouvoir nous potentiellement obtenir nos droits, tout en devant lutter de notre côté aussi de manière générale, en faisant de la désobéissance civile, en appelant nos représentants à l'Assemblée nationale, en faisant de la communication sur juste en fait le fait qu'on a le droit d'exister, au sein de nos propres collectifs pour réussir à avoir un minimum d'adaptation et de reconnaissance de notre travail. Et en même temps, on est les personnes les plus à même d'être épuisées. Du coup, c'est légèrement compliqué.
Parce qu'il faut quand même savoir que c'est là aussi le scandale. C'est que normalement, toutes les personnes qui déposent un dossier à la MDPH doivent bénéficier d'une visite à domicile, d'un entretien particulier pour évaluer de manière individuelle leur situation, pas seulement sur dossier. Elles doivent après cela recevoir ce qu'on appelle un plan personnalisé de compensation, qui est une proposition. Et soit elles sont d'accord avec la proposition et à ce moment-là, ça passe en CDA et sans problème, soit elles ne sont pas d'accord et elles ont le droit de venir se défendre en CDAPH. Et là aussi, on a des témoignages nombreux de personnes handicapées qui ont demandé, qui n'ont pas eu de visite à domicile, qui n'ont pas eu reçu de PPC, qui n'ont pas été invitées devant la CDAPH et qu'on en voit perdre des mois dans des recours. Et pendant ce temps-là, leur état de santé, leur vie se détériore. Donc voilà, je voulais piquer ce coup de gueule parce que j'en peux plus qu'on traite les gens comme ça. J'en peux plus. Donc il faut faire savoir ce qui se passe. Il faut faire savoir à quel point c'est scandaleux. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se batte pour que dans ce pays, ce soit les personnes handicapées sans conflit d'intérêts qui représentent les personnes handicapées et que ce soit les personnes handicapées qui choisissent leurs représentants, pas le préfet, pas le président du département qui sont en conflit d'intérêts dans ces affaires. Et il faut qu'on se batte pour que les critères d'octroi, de compensation de handicap prennent en compte toutes les situations. C'est une question de dignité, c'est une question de droits humains. La France a été lourdement dénoncée par l'ONU à plusieurs reprises. Vous savez ce que dit l'ONU par rapport à la situation, à la politique française du handicap? L'ONU parle de ségrégation, de privation de liberté et d'atteinte aux droits humains. Et aujourd'hui, je suis très inquiète parce que la direction qui est prise est une direction d'aggravation de l'accès au droit et non pas une direction d'amélioration.
come on, you know I just get confused.